Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Écoutez Radion, il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous avons appris la disparition de Claudine Vincenot qui nous a quittés le 17 mars dernier dans sa 86e année. Claudine Vincenot était née le 15 septembre 1938 à Dijon. Elle était la deuxième enfant de la famille d'Henri Vincenot et l'unique fille d'une fratrie de quatre enfants. En 1957, elle se marie et de cette union naissent trois enfants, Nathalie, Vincent et Anne-Cécile. Et c'est en famille qu'ils vont partir au Maroc en 1969, où ils vont vivre 14 belles années. Alors Claudine Vincenot reprendra ses études sur le tard et devient professeure de français. Elle est même titulaire d'un doctorat en lettres modernes. Alors au Maroc, Claudine Vincenot a formé des enseignants au français, elle a aussi appris l'arabe. Et depuis 1984, Claudine Vincenot se consacrait au fond Henri Vincenot. Au cours de l'entretien que vous allez réentendre et que nous vous avons proposé une première fois sur l'antenne de Radion en 2011, Claudine Vincenot évoque son père. Les informations que j'avais prises alors dans un très beau livre que Claudine Vincenot a fait paraître en 1995 aux éditions Anne Carrière et qui a pour titre « Le maître du bonheur ». Alors justement, j'avais demandé en ouverture à cet entretien comment Claudine Vincenot appréhendait ce père assez génial qu'était Henri Vincenot, l'auteur du Pape des Escargots, mais aussi de la Bibaud et de beaucoup d'autres romans. Je lui avais demandé comment elle appréhendait cet homme qui était effectivement son père, qui était romancier, dramaturge, poète, peintre, sculpteur, conteur, chanteur, apiculteur, éleveur de moutons à l'âge de 70 ans et bûcheron. Et j'avais demandé d'ailleurs si tout cela ne lui donnait pas des étourdissements du fait d'avoir eu un père aussi polyvalent et talentueux. Claudine Vincenot, enregistrée fin juillet 2011 lors de la fête du livre de Saulieu où elle était l'invitée d'honneur.
Pour vous, ça ne vous donne pas un étourdissement d'avoir eu un père, j'allais dire, presque aussi génial, oui. Aussi polyvalent ?
Étourdissement, non, parce qu'on a été habitué depuis l'enfance à voir papa écrire, sculpter. On est parti à Paris à la fin de la guerre parce que mon frère aîné était sourd, muet. Il fallait donc le faire rééduquer à l'Institut des Sourds-Muets rue Saint-Jacques à Paris. Et à la fin de la guerre, on ne trouvait pas de logement, donc on était assis dans deux pièces. On participait donc à tous les travaux de papa. Il sculptait, il peignait, il jouait du piano, il écrivait. Donc étourdi, non, parce qu'on était habitué. Mais je dois dire que depuis que quand je me suis trouvée face à tout ce qu'il avait fait, et qu'il a fallu que je classe les manuscrits, que je fasse des cartons archives, que j'évalue ce qui pouvait être édité ou pas, là, oui, j'ai eu un certain vertige. Parce que je n'en voyais pas le bout.
Vous écrivez « J'ai de la chance d'être la fille d'Henri Vincenot et d'avoir vécu, ainsi que mes trois frères, une enfance toute de charme, de fantaisie, de bonheur. »
Oui.
Vous maintenez, bien sûr.
Je maintiens, tout à fait.
Et vous écrivez, ça c'est magnifique, « Papa était le soleil de notre galaxie par son caractère, sa gaieté, son sens permanent de la plaisanterie. » On rigole beaucoup et on le sent quand on vous lit. Que votre père, alors votre maman aussi, vous lui rendez hommage. Parce que vous dites, on ne parle pas assez des femmes d'artistes. Mais votre maman, André oui. Baroin, de son nom de jeune fille, votre maman a été une femme aussi admirable.
Admirable parce que elle avait donc fait l'escale de Dijon, elle aurait pu prétendre à une situation. Je pense que la chose se renouvellerait maintenant, une jeune fille n'accepterait pas de renoncer à son diplôme d'école de commerce. Elle n'a pas du tout cherché à avoir un emploi quelconque, elle s'est vraiment consacrée à nous quatre. Il faut dire que la surdité de mon frère lui posait quand même pas mal d'obligations le soir quand il revenait de l'école pour être répétitrice de mon frère. Mais elle s'est surtout consacrée entièrement à son mari et c'était une admiratrice inconditionnelle de son époux.
Une de ses premières lectrices aussi.
Une de ses premières lectrices, parce que, oui, pardon.
Alors que son beau-père, avant le mariage, oui. Voulait absolument qu'elle décourage Henri d'écrire.
Tout à fait, tout à fait. Mon grand-père, qui était un homme placide, très calme, très secret, avait pris maman à part au moment du mariage et lui avait dit, alors surtout, empêchez-lui d'écrire, qu'il ne perde pas son temps à toutes ces bêtises-là. Il voulait que son fils fasse une carrière à la SNCF, mais une carrière d'ingénieur. Il en avait le titre en sortant d'HEC, c'était comme ça. Mais papa n'était pas du tout intéressé par le travail de bureau. Et il a préparé HEC pour faire plaisir à ses parents. Mais il est d'ailleurs sorti dans un très bon rang. Il a fait tout son possible pour réussir ses études, mais ça ne l'intéressait pas du tout. Donc la carrière cheminote par excellence ne l'intéressait pas. C'est pour ça que très vite, après avoir écrit un article sur l'expédition des poulets de Bresse,
alors qu'il est en poste à la gare de Louan,
tout à fait, il a envoyé cet article fin limier, il l'a envoyé à notre métier qui est l'ancêtre de la Vie du Rail, et puis on l'a appelé à la Vie du Rail justement pour faire des reportages, mais c'était des reportages à la fois touristique, littéraire, avec des remarques picturales. Ce n'était pas l'article pur et dur d'un cheminot borné, je dirais.
Et il était heureux parce qu'il voyageait beaucoup,
il était
découvrant
très heureux.
La France à laquelle il était très attaché.
Oui.
Certes, Gérard Gauthier le rappelait au cours de votre causerie.
Oui.
Henri Vincenot a aimé sa Bourgogne, enfin la Haute-Bourgogne, c'est-à-dire la Bourgogne de Vincenot, c'est la Bourgogne forestière, c'est la Bourgogne d'élevage. Rien à voir avec la Bourgogne des vignobles de votre maman.
Voilà, tout à fait.
Rien à voir avec Marange.
Je vois que vous connaissez très bien.
Je vous ai bien lu, Claudine
oui,
Vincenot.
Oui.
Et on parle un tout petit peu de votre maman, parce que vous écrivez d'elle. Il y a des pages très émouvantes lorsque vous évoquez l'agonie de votre maman. Vous êtes même un peu en colère contre les autorités ecclésiastiques, parce que vous avez le sentiment que son enterrement que le prêtre n'a pas eu les mots adéquats ou que méritait votre maman, André Baroin.
Exactement.
Elle est morte en 1984, an avant votre papa. Mm-hmm. Et on peut dire que la mort de votre maman a été quelque chose de
foudroyé,
terrible
papa.
Pour votre
père. Oui, ça l'a foudroyé complètement. Oui, maman n'était pas une femme d'église. Elle avait des raisons à cela. Quand mon frère aîné est sorti de l'Institut des Sourds-Muets, pour suivre un cycle normal, parce qu'il était démutisé, il parlait, non pas par signe, mais, non pas par geste, mais en lisant sur les lèvres. Mes parents ont pensé que les écoles libres, qui étaient tenues par des ecclésiastiques à l'époque, seraient plus à même d'accepter un enfant un peu hors norme. Or, partout, ils se sont fait dire que, vous savez, on ne peut peut-être pas imposer à nos élèves un enfant anormal. Donc mes parents ont été très chagrinés. Et en fait, ils se sont adressés à l'école communale de garçons à côté de mon école à moi, qui jouxtait le jardin des plantes. Et le directeur, qui était radical socialiste du midi, a dit « je tente l'expérience ». Donc maman a gardé quand même une rancune justifiée au clergé. Voilà.
Et votre père a donc décrété à partir de là que le dimanche il n'irait plus à l'église, mais que le dimanche il peindrait et se consacrerait à la famille.
Tout à fait.
Et on s'amusait bien finalement, même à Paris où pourtant vous n'avez pas trop souffert du macadam et du manque de place.
Non, du tout. Moi je dormais donc dans une pièce avec mes trois frères. Papa et maman dormaient dans la pièce commune où il y avait le piano, le chevalet, tout ce dont un artiste a besoin. Je n'ai aucun souvenir Vous savez, la vie est un peu quelquefois comme on la voit aussi. À l'époque, on n'avait donc pas de frigidaire, pas de machine à laver. On faisait du feu dans les petites cheminées prussiennes. On descendait chercher le charbon à la cave, 5 étages sans ascenseur. Pas de frigidaire, donc on faisait les courses tous les jours. On avait des tickets de rationnement. Je n'ai pas de mauvais souvenirs, parce qu'on riait beaucoup à la maison.
Votre père ne vous a jamais mis une gifle ou une fessée?
Non, c'était
plutôt
maman.
Votre maman qui giflait.
C'est maman qui avait la main leste. Mais on lui pardonne quand on sait que j'avais 3 frères, et puis moi aussi, mes 3 frères qui étaient très acrobates. Et combien de fois elle a rattrapé un de mes frères qui avait escaladé le balcon, attaché à une ficelle de lieuse pour descendre en rappel jusqu'au rez-de-chaussée. Alors vous voyez un petit peu...
Ce qui est merveilleux, c'est que dans votre témoignage sur votre père, vous avez l'amour des parents. De votre maman, vous écrivez, vous parlez d'elle à sa mort. Dans le chapitre intitulé « La mort de près », vous parlez d'elle comme d'une reine, notre axe du monde, notre terre, notre ciel, notre vie.
Oui.
C'est magnifique, une fille qui écrit ça de sa maman.
Ah oui, je dois dire que la mort de maman a bouleversé tout le monde. Encore maintenant, ça fait donc 25 ans et plus que mes parents ont disparu. Je suis encore très... Bon, j'ai une famille, j'ai des enfants, des petits-enfants, mais je suis très, très... Je suis toujours avec mes parents. Je pense toujours à eux, et quand je rentre de voir un beau spectacle ou quelque chose de surprenant, je leur dis, en rentrant, je dis, tiens, ben ça, toi, t'aurais aimé.
Mais par exemple, si vous sentez une femme qui porte l'eau de Lancôme... Ça va vous rappeler votre maman et ça va vous faire souffrir.
Ah, ça me fait souffrir. J'ai gardé l'eau de Lancôme de maman dans l'armoire à Commarin. Et je dois dire que chaque fois que j'y vais, c'est du masochisme, j'ouvre l'armoire, je respire l'eau de Lancôme. Et à chaque fois, j'ai un coup au cœur. C'est du masochisme, parce que je ne suis pas obligée. Mais j'ai besoin... Et c'est très curieux, j'ai vécu 15 ans au Maroc, j'étais donc loin d'eux. Et comme je vous dis, j'ai fondé une famille, j'ai des petits-enfants, nombreux. Mais j'ai l'impression que le cordon ombilical avec mes parents n'est pas coupé.
Mais et un peu comme votre père a toujours supporté et vécu avec ses parents.
Oui.
On a l'impression que vous êtes un petit
c'est
peu
possible.
À l'image de votre père, vous aussi. On a l'impression que vous ne vous détachez pas de vos parents.
C'est possible,
comme
vous voyez,
père,
je n'avais pas pensé à ça.
Il les a un peu subis aussi, vous l'écrivez quand même.
Il a un peu subi ses parents
et grands-parents, mais il était fils unique.
Oui, et c'est vrai que la première fois où je l'ai vu pleurer, c'est quand on lui a annoncé la mort de sa grand-mère. C'était le premier décès qu'il connaissait, en fait, Valentine. Et là, j'ai vu des larmes. C'était sa grand-mère, et pourtant, elle avait 85 ans. Elle avait l'âge, à l'époque, de disparaître. On savait qu'elle était quand même très diminuée. Mais il en a eu un profond chagrin. Oui, mais c'est vrai, le rapprochement que vous faites avec l'attitude de papa, je n'y avais jamais pensé. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas. Pour moi, mes parents, alors que je sais bien que ce sont des êtres comme les autres, entre guillemets, pour moi, c'était un peu les fondateurs de mon univers. Et vous savez, c'est une question de tempérament. Je ne pense pas que ça a été la même chose pour mes frères, qui ont tous vécu ces départs de façon différente. Moi, j'y pensais depuis toute petite. Quand papa et maman mourront, mais je me disais, c'est pas possible. Pas possible que je sois sans papa et maman. Et maintenant, je suis plus vieille que mes parents. C'est affreux, ça.
Hommage en cette fin de matinée sur Radio à Claudine Vincenot, la fille d'Henri Vincenot, décédée le 17 mars dernier dans sa 86e année. Il s'agit d'un wagon-livre que nous vous avions proposé en 2011 avec la fille de l'auteur du Pape des Escargots et de la Bibaude. On marque un premier intermède musical et nous nous retrouvons d'ici quelques minutes avec la suite de cet entretien que nous vous proposons aujourd'hui en nouvelle diffusion en hommage à Claudine Vincenot.
Quand on rame de honte, quand on sourit aux passants, quand on regarde ce qui compte, quand on embrasse un amant, quand on refait les comptes, quand on manque de temps, quand un jour on affronte, quand on passe devant, quand on joue la refonte, quand on plie sous le vent, quand on jette le tout, quand la terre se désassemble, je me jette à ton cou, c'est mon île d'être ensemble. Quand on respire l'instant, quand la mer remonte, quand la lune redescend, quand arrive le soir, quand tout est noir, quand on vit l'ordinaire, quand on est seul sur la terre, quand on regarde le ciel, quand tout est éternel, quand le jour sera fini, quand tout sera fini, quand on jette le tout, quand la terre se désassemble, je me jette à ton cou, c'est mon île d'être ensemble. Là, quand on jette le tout, quand la terre se désassemble, c'est mon île d'être ensemble. Quand les larmes montent, quand le moral descend, quand on jette le tout, quand la terre se désassemble, je me jette à ton cou, c'est mon île d'être ensemble.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous rendons hommage en cette fin de matinée sur Radio à Claudine Vincenot, qui nous a quittés le 17 mars dernier. Elle était la fille de l'écrivain Henri Vincenot, l'auteur du Pape des Escargots, mais également de la Bible d'Henri Vincenot. Nous a quittés, lui, en 1985. Avec Claudine Vincenot, dans cet entretien que nous vous proposons aujourd'hui, bien évidemment, elle retraçait avec bonheur et plaisir, elle déroulait la vie de son père. Et nous rappelions d'ailleurs qu'à l'âge de 70 ans, Henri Vincenot se lance dans l'élevage des moutons. Et il va être blessé par un mouton qui va le corner. Et suite à un examen médical, on découvre alors une tumeur maligne. Claudine Vincenot.
Un bélier l'a chargé et il a eu des côtes traumatisées. Et il a eu ce cancer de la plèvre, parce que ce n'était pas un cancer du poumon, le cancer de la plèvre, de ce côté-là. Alors, est-ce qu'il y avait déjà un terrain propice? Est-ce que la mort de maman l'avait beaucoup affaibli psychologiquement? Parce que quand nous sommes sortis de la clinique, après le constat du décès de maman, papa nous a dit « Maintenant, pour moi, c'est durable ». Bon, il voulait dire, bon, c'était clair, que ce qu'il allait vivre, c'était en plus, mais qu'il n'y tenait pas.
Henri Vincenot, bien évidemment, c'est l'écrivain, c'est le poète, le dramaturge. Je ne vais pas reprendre l'énumération du début de notre échange, Claudine Vincenot. Il avait des défauts, ça a été d'ailleurs évoqué un peu. Quels étaient les défauts ou le défaut majeur de votre papa?
Alors, ben, comme je disais lors de la causerie, à mes yeux, peut-être le fait de ne pas oser contredire et reprendre, il avait horreur du conflit, et je tiens ça de lui. Donc toujours arrondir les angles, même dans des situations où il aurait peut-être été bon qu'il intervienne plus nettement. Alors ça pouvait peut-être être pris pour une dérobade ou que certains peuvent appeler de l'hypocrisie. Moi je suis un peu comme ça, j'ai pas du tout l'impression que c'est de l'hypocrisie, c'est peut-être une faiblesse, ne pas oser affronter l'autre s'il est plus fort. On préfère comme on dit maintenant, écraser le coup, mais ne pas monter au créneau.
Il a un aspect aussi amusant, c'est que c'est un homme qui est extrêmement distrait.
Très distrait. Il y a différentes anecdotes, mais moi, il partait au bureau quelquefois en chaussons, au moment s'apercevant que les chaussures étaient encore dans le couloir, le hélait depuis le balcon en lui disant « Oli, t'as pas mis tes chaussures ?» Alors il regardait ses pieds, « Ah oh, oui !» Parce qu'il devait quand même prendre le métro, aller jusqu'à la gare Saint-Lazare, enfin c'était pas la province. Alors il remontait ce chaussée, et puis un nombre de distractions incroyables dont peu d'exemples reviennent, mais c'était constant.
Mais ils vous ont enseigné, votre père vous a enseigné le sourire.
Ah oui, papa et maman avaient décidé en se mariant de procéder à la croisade du sourire. Ne jamais avoir toujours un air heureux, joyeux et ouvert aux autres. Et je dois dire que mes frères et moi, on est très souriants. Et je pense que ça vient de là. D'abord, on a les gènes déjà de mes parents. Et puis, les parents n'acceptaient pas qu'on fasse la tête, qu'on ait l'air... Jamais. Le papa lançait une boutade et on riait.
Est-ce que vous avez été élevé dans la religion? Même si vous dites que vos parents... Votre père était croyant, votre mère aussi. En tout cas, il n'y avait pas de pratique ostentatoire
non, du
de
tout,
la religion.
Du tout. Croyant, qu'est-ce qu'on appelle croyant? Je pense qu'il, comme chacun d'entre nous, il se demandait pourquoi nous ici? Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Quelle est l'explication de ce monde qui paraît très bien organisé et qu'en fait on ne comprend pas bien. Donc il avait cette interrogation existentielle.
Existentielle, tout à fait.
Voilà. On allait à la messe, mes frères et moi, jusqu'à la première communion. On faisait tamponner nos cartes de présence. On a fait nos premières communions. Et c'est tout. La religion nous est plutôt venue par le biais de l'art, puisque papa sculptait. Toujours des scènes religieuses, la mise au tombeau, la nativité, la mise en croix. Et il a sculpté les apôtres. Donc c'était par ce biais-là. C'est par l'iconographie très plaisante, très attirante. C'était toujours des choses joyeuses et dans des matières comme le bois fruitier. Que maman se cirait, papa ne voulait pas que ce soit ciré, mais enfin, ça leur donnait une chaleur, une présence. La mystique, on l'a plutôt abordée par le biais de l'art, et d'un art joyeux et coloré.
Votre père est très attaché à la figure du Christ,
oui.
Puisqu'il parle de lui. Rappelez-vous seulement de ce gars formidable, Jésus, qui ne nous demande que trois choses.
Amour, pardon, partage. Et ça, je crois que c'est une règle de vie. Une règle de vie, l'amour de l'autre, différent ou pas, être accueillant à tous. Pardon, papa nous disait dans les circonstances difficiles de notre vie, tu dois pardonner 70 fois, 7 fois, enfin comme dans la Bible ou dans l'Évangile. Et puis partage, eh bien, quand tu as trop, au lieu d'accumuler, tu donnes. Tu partages.
Alors Claudine Vincenot, j'imagine que vous devez parfois être un peu lasse qu'on vous demande de parler de votre père, et notamment de la Bible. C'est peut-être un peu réducteur.
Lasse, non, parce que c'est quand même un choix que j'ai fait. En m'occupant de son œuvre, je savais bien que ponctuellement, il y aurait des manifestations et que c'est à moi qu'on s'adresserait puisque je m'en occupe particulièrement.
Vous êtes un peu l'héritière, non? C'est peut-être prétentieux, vous n'osez peut-être pas le dire
non,
dans le micro,
mais non.
Mais souvent, je suis un peu comme lui.
Oui, parce que je parlais beaucoup avec lui. Et puis, je suis la seule littéraire des quatre. Mes frères ont d'autres qualités. Mon frère aîné peint. François, malheureusement, n'est plus là. Denis...
Alors, François, c'est celui qui a été hôtelier, restaurateur.
Voilà, oui, à Saint-Bernard.
L'un a fait l'école Boulle.
Oui, mon frère aîné a fait l'école Boulle. Et il est artiste, il peint, et il est très adroit. François, malheureusement, donc n'a pas pu se réaliser complètement. Et Denis est à l'association Pompon du musée de Saulieu et est, maintenant qu'il est en retraite de la police, est expert en bronze. Il s'est occupé de l'affaire des faux Giacometti. C'est lui qui a soulevé cette affaire. Et donc on est quand même tous portés vers l'art, vers les manifestations artistiques. Mais c'est quand même moi qui est tout classé, qui... Bon, je suis très prof, hein.
Oui.
Donc, tout est classé, j'ai mes fiches, et ça, mes frères, ça les agace un petit peu.
Alors, en 1978, vous dites et vous parlez du succès du roman de votre papa comme d'un coup de tonnerre dans la sérénité familiale. Est-ce que vous pourriez rappeler aux auditrices et auditeurs de Radion ce que signifie cette expression « la bille baude » ?
Alors, la bille baude, c'est un mot français, tout simplement, qui signifie aller à l'aventure, dans les bois, on peut aussi, au sens figuré, bilbauder dans une bibliothèque. C'est-à-dire, au hasard des rencontres, lire ou découvrir quelque chose de surprenant sans l'avoir vraiment cherché.
Alors, ce roman, La bille baude, c'est aussi un peu votre roman des origines.
Oui. Beaucoup de gens le prennent pour une autobiographie absolue, comme les Mémoires d'un enfant du rail, qui a été réédité sous le titre Rempart de la miséricorde. C'est à partir d'événements autobiographiques, c'est quand même, d'ailleurs, papa le dit dans une émission d'Apostrophe, à Bernard Pivot, il lui dit « Oui, à partir du réel, c'est un réel, le livre est un réel transfiguré. » Donc, c'est vrai et en même temps, c'est pas tout à fait exact. Mais, de même que le peintre dit que le tableau, le paysage d'un tableau est peut-être moins exact, mais plus vrai, qu'une photo très exacte, mais qui ne rend pas l'âme du paysage. La bille baude, c'est ça. Il rend l'atmosphère, il met en scène des personnages qui ont existé, mais il y a des petits détails un peu romancés, un peu ajoutés, un peu...
Bon, bien sûr, il y a le tremblot
qui est
le modèle,
enfin,
qui est en fait votre Joseph Brocard, votre arrière-grand-père. Et c'est aussi un livre sur l'apprentissage de la chasse. Votre père écrivait et disait, je le cite, « Observer un homme à la chasse est beaucoup plus instructif qu'une longue étude psychologique. »
Oui. Oui, oui. Alors, papa aimait la chasse.
Il a été président de la société de chasse de Comarin, je crois,
à l'époque.
Ah bon ? Je vous apprends ça.
Oui.
Ah bon ? Je l'ai lu pourtant. Bon.
Ce n'était pas un chasseur qui chassait pour tuer. Il aimait jouer avec, rivaliser avec l'animal et le débusquer. Et si vous voulez, c'était une compétition d'adresse et de... oui, d'adresse. Mais donc il aimait surtout voir son grand-père à la chasse, observer les... D'ailleurs, dans mon dernier livre de nouvelles, j'ai écrit une nouvelle sur la chasse qui rappelle beaucoup de choses que mon père m'a racontées.
La bille baude, le roman de votre père Henri Vincenot en 1978, c'est aussi le roman du retour à la terre.
Oui.
Nous sommes bien d'accord. Et ça va engager, ce livre va engager votre père sur les sentiers de la gloire, puisqu'effectivement, il y a ce passage mémorable à Apostrophe, où la France toute entière découvre un vieux monsieur pimpant, guiré, avec son accent bourguignon bien trempé. Ce retour à la terre, c'est aussi, quelque part, le retour... à la pensée de Lamartine, qui est un poète, avec Nerval, c'est un point commun aussi, que vous avez avec votre papa. Mais ce retour à la terre, c'est aussi l'attachement à l'identité rurale d'une France
rurale,
qui, en 77-78, commence un petit peu à disparaître.
Je pense que, pour dépasser l'anecdotique, on peut voir là... un désir, d'abord un effroi devant le massacre que les hommes commencent à faire de la nature, parce que comme je le disais tout à l'heure, nous sommes quand même les plus grands prédateurs de la planète et nous l'exploitons jusqu'à la mort. Il y avait donc cet effroi parce que papa nous disait souvent « ne gaspillez pas l'eau, un jour il n'y en aura plus ». Et nous on disait « oh là là, il y aura d'autres parce que quand même l'eau, Lou, il y en aura toujours. Bon, on arrive maintenant à quand même rationner.
C'est l'or blanc.
C'est l'or blanc. Bon, et puis, il y avait aussi ce désir de retourner à une sagesse beaucoup plus simple, beaucoup plus ancrée dans les vérités de la nature.
Pardonnez-moi, c'est le thème de la campagne purificatrice et régénératrice.
Tout à
c'est
fait.
Exactement ça.
Tout à fait. Alors, il y avait chez papa, malgré tout, quelque chose que je ne partage pas tout à fait, à savoir, comme Lamartine le disait, la nature est là qui t'invite et qui t'aime, plonge-toi dans son sein qu'elle t'offre toujours. La nature n'est pas toujours charitable. Quand on ne sait pas vivre dans la nature, elle peut être cruelle. Et c'est un petit peu ce qu'il tentait de faire comprendre qu'en abandonnant les traditions, c'est-à-dire la connaissance profonde des lois de la nature, on se mettait en danger. Parce que si maintenant, par exemple, on est obligé de retourner à une vie très naturelle, nombre d'entre nous ne sauront pas allumer un feu, ne sauront pas utiliser les simples, ne sauront pas se nourrir de ce qu'on peut trouver dans la nature parce qu'ils ne connaissent pas.
Mais Claudine Vincenot, ce que votre père aimait dans la nature aussi, c'était l'initiation à la nature, à ses mystères,
oui.
à ses secrets,
oui.
à ses charmes.
Oui.
Ça, ça lui plaisait.
Mm-hmm.
D'où son attachement aussi à se soigner. Il refusait quand même un petit peu la pharmacopée traditionnelle.
Malheureusement,
il préférait utiliser
que,
des remèdes
oui.
gaulois
des
ou se ressourcer en oui. collant le corps, le cul
arbre,
au sol et
voilà.
le dos contre un arbre.
Oui,
et il
oui.
disait que l'énergie venait du sol,
oui.
des forces telluriques.
Alors,
bon, c'est...
oui, il est vrai qu'on se régénère dans la nature, il est vrai, mais si papa s'était fait soigner de façon plus allopathique, il aurait peut-être pu éviter quand même d'être si gravement atteint. Je pense qu'il n'aimait pas aller chez le médecin, il n'aimait pas aller chez le dentiste, et malgré tout il a entretenu un état de vieillissement comme tout le monde, hein, mais il n'a jamais voulu Maman était très médicament, hein. Et maman lui disait, tu devrais prendre ci, tu devrais aller voir un tel, tu devrais... Non, 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 la médecine est le premier ennemi de l'homme, enfin, etc. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus. Mais enfin...
Il détestait quand même ce qui était artificiel. Par exemple, lorsque, adolescente, il vous voit en train de vous mettre un petit peu de rouge à lèvres,
oui.
il vous dit... Claudine, laisse donc les artifices aux maquignons qui maquillent leurs bêtes pour tromper le client.
Oui.
C'est pas très gentil quand
non.
même pour l'adolescente que vous étiez.
Non, également une fois, je me souviens, j'étais à la Sorbonne à l'époque et je voulais un peu d'argent de poche. Alors, je traversais la Seine et j'allais donner des petits cours de répétitrice plutôt à une petite jeune fille qui faisait pas grand-chose d'ailleurs, qui ne travaillait pas beaucoup. Et je me faisais payer à l'époque 4,50 francs l'heure de cours. Et c'était près du boulevard Saint-Denis. Et j'adorais les chaussures à talons. Et j'avais vu dans les vitrines des chaussures avec des talons comme ça. Mon premier salaire, enfin quelques heures de cours, je suis entrée, j'ai acheté des chaussures avec des talons de 8 ou 9 cm. Et puis je suis rentrée à la maison et je les ai montrées à... Je les ai montrés à maman qui a fait une drôle de tête. Bon, j'étais pas très contente, enfin j'étais un peu gênée. Et puis papa est rentré du bureau et maman m'a dit, tiens, montre à papa ce que tu t'es acheté avec ton premier salaire. Je sors les chaussures de la boîte, papa me dit, pauvre petiote. Alors j'ai remis les chaussures dans leur boîte, j'ai glissé la boîte sous mon lit et je n'y mets les chaussures que quand j'étais loin de mes parents. Et depuis lors, je ne porte que des talons très hauts.
En 95, dans Le Maître du Bonheur, mon père Henri Vincenot, vous écrivez « Une remontrance de mon père, bien sentie, c'était plus qu'il n'en fallait pour me mortifier. »
Ah oui.
Il pouvait être comme ça, très cassant
Pas cassant.
Il trouvait la faille
Oui, il trouvait la faille. Par exemple, je me souviens, quand j'avais 15 ans, je me trouvais très moche... comme toutes les adolescentes, et j'avais dit à papa, je suis moche. Et il m'avait dit, et ça c'est vrai que c'est un peu dur, il m'avait dit, mais écoute ma fille, réjouis-toi de ta laideur. Il y en a qui cherchent quoi faire pour faire plaisir au bon Dieu. Toi, tu n'as qu'à supporter ta laideur.
La voix de Claudine Vincenot, enregistrée courant juillet 2011, à Saulieu, Claudine Vincenot, qui nous a quittés le 17 mars dernier. Elle était la fille de l'écrivain Henri Vincenot, dont elle parle dans le document que nous rediffusons aujourd'hui sur Radion. Si vous le voulez bien, nous marquons un nouvel intermède musical et puis nous retrouverons bien sûr Claudine Vincenot évoquant son père et notamment la maternité. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radion dans Wagon Livre, votre émission littéraire.
Non chiedi libertà, lo sai non sono io, a incatenarti qua, il sentimento va già libero da sé. Tu quanto amore dai, in cambio niente vuoi. Nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? Un angelo disteso al sole che è caduto qua, nuda verità, e fa l'amore anche la. Che mi vuoi, non devi fare niente che non vuoi, il cuore non ci sta in una scatola e tanto meno noi. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous rendons aujourd'hui hommage à Claudine Vincenot, disparue le 17 mars dernier à l'âge de 86 ans. Claudine Vincenot, qui était née à Dijon le 15 septembre 1938 et qui laisse une œuvre littéraire non négligeable, notamment des textes tout à fait intéressants, biographiques sur son père. Je vous recommande, malheureusement le livre est épuisé, mais on peut pourquoi pas encore l'acheter sur des sites de vente d'ouvrages d'occasion ou les emprunter dans les bibliothèques. Je vous recommande la lecture du Maître du Bonheur, paru aux éditions Anne Carrière en 1995, qui dévoile différentes facettes de la vie, de l'œuvre, des rencontres d'Henri Vincenot et qui montre aussi le talent absolument formidable de cet homme qui était romancier, poète, dramaturge, sculpteur, peintre, conteur, chanteur, apiculteur, éleveur de moutons. Enfin, c'est étourdissant, un homme presque universel et polyvalent et merveilleusement talentueux. Je vous recommande aussi une biographie d'Henri Vincenot, toujours sous la plume de sa fille Claudine, Henri Vincenot, La vie toute crue. Et puis vous pouvez redécouvrir ses textes de fiction, notamment son recueil de nouvelles, Petites histoires d'où sa mère, aux éditions Anne Carrière. Et alors là aussi, un très très bel ouvrage, c'est Vincenot, l'album paru l'année du centième anniversaire de la naissance d'Henri Vincenot, en 2012, aux éditions de l'Armançon, à consulter en bibliothèque, richement illustré, un très beau texte. Et puis les romans de Claudine Vincenot, notamment Cœur de voyou, paru aux éditions de l'Armançon en 2013, et autres romans, Colombe et Brutus, toujours à l'Armançon en 2015. On réécoute Claudine Vincenot, enregistrée courant juillet 2011 lors de la fête du livre de Saulieu, dont elle était l'invitée d'honneur. On l'a souvent d'ailleurs présenté, le père de Claudine Vincenot, comme un misogyne. Et pourtant, Henri Vincenot était admiratif de la femme lorsqu'elle devenait mère. Claudine Vincenot aura 3 enfants. Je rappelle aussi qu'elle était la grand-mère de 11 petits-enfants. Et justement, la maternité subjuguait Henri Vincenot. Écoutons Claudine.
Ça l'épatait parce que je sais que pour mon premier bébé, c'est ce qu'il m'avait dit. Il était venu me voir à la clinique et il m'avait dit « Eh bien, tu vois, ça c'est la plus belle chose qui soit. Tu as fait une chose que nous, les hommes, on ne peut pas faire. » Et misogyne, non, parce qu'en fait, il était entouré de femmes très fortes. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, qui était draconienne, maman, qui était quand même une femme solide et qui taillait, tranchait. Alors je pense que c'était un peu sa revanche intérieure, il n'en était peut-être même pas conscient. Et puis... comme il avait été habitué, justement, par toutes ces femmes-là, à avoir la vedette, à être très admiré, il accordait beaucoup d'importance à l'homme. Mais je pense qu'il accordait à l'homme l'importance qu'il n'avait pas dans son propre foyer. Parce que c'était maman qui disait non, Henri, quand je demandais à papa à sortir, je me souviens, j'avais 16 ans, 17 ans, j'avais voulu aller au Théâtre des Champs-Élysées écouter Sidney Bechet à l'époque, et avec mon futur mari, et avec maman il n'en était pas question, alors papa m'avait dit, bah, écoute, vous y allez, et tu me rejoins à 7h et on rentre ensemble. J'avais dit oui pour me sauver, mais à 7h, le concert n'était pas commencé. Alors, je suis revenue du concert à 10h du soir. Alors, maman m'a copieusement grondée, et papa était tout penaud. Et j'ai dit, mais papa m'avait donné la permission. Papa dit, oui, mais je t'avais dit jusqu'à 7h, mais c'était pas commencé. Et après, il m'a dit, tu sais, tu m'as mis dans une mauvaise situation, je t'avais fait confiance. Donc, il baissait pavillon devant maman. Et je pense que la misogynie qu'on lui prête vient peut-être un peu de là. Mais en même temps, il était très galant, très attentionné, et il aimait la femme. Avec un grand F.
Alors, il aimait aussi les rencontres. Il y en a eu des merveilleuses dans sa vie. Mmh. Notamment en 1930, il rencontre quelqu'un qui va devenir un immense philosophe, notamment pour un livre qui est intitulé La psychanalyse du feu. Mmh. Et d'ailleurs, votre père aura aidé cet homme.
Oui.
C'est Gaston Bachelard.
Oui, tout à fait. Parce que les parents de maman habitaient sur le bord du canal à Dijon. Et Gaston Bachelard avait une maison de l'autre côté qui est démolie maintenant pour faire passer la bretelle de l'autoroute, malheureusement. Et ce monsieur se promenait avec sa fille qui était également Suzanne Bachelard, qui était également philosophe, et ils discutaient beaucoup. Et papa l'a rencontré, ils ont beaucoup parlé. À l'époque, Bachelard écrivait La psychanalyse du feu, ils ont discuté ensemble. Ensuite, papa a essayé d'écrire La psychologie de la neige, mais c'est un projet qui a avorté parce que... Et moi, je me souviens très bien, j'étais petite, quand on se promenait au bord du canal de Bourgogne, en face, il y avait ce monsieur avec sa barbe blanche, un chapeau à large bord.
Un druide.
Qui avait une stature merveilleuse. Et papa me disait, tu vois ce monsieur de l'autre côté, c'est monsieur Bachelard. Et c'est resté pour moi l'image du vieux sage évoqué dans la psychologie de Jung. Ce personnage, cet archétype de l'ancêtre qui sait tout et qui peut tout transmettre et qui protège de tout.
Alors, le jeune Henri Vincenot, à Paris, rue de Beaujolais, a rencontré Colette.
Oui.
Mais vous n'en savez pas plus.
Non, je n'en sais pas plus. Enfin, je sais qu'il est allé la rencontrer, il a sonné à la porte. La gouvernante, parce que Colette était déjà souffrante à l'époque, la gouvernante est venue ouvrir, papa s'est présenté, a dit ce qu'il voulait. La gouvernante allait refermer la porte en lui disant « Madame est fatiguée ». Et du fond de l'appartement, papa a entendu la voix de Colette « Laissez entrer ce jeune homme », parce qu'elle avait reconnu l'accent bourguignon de papa. Donc papa est entré, ils ont parlé, mais j'étais jeune à l'époque, et vous voyez, c'est dommage de ne pas questionner les parents quand on est jeune, parce que je ne sais pas exactement ce qu'ils se sont dit.
Alors, vous parlez d'accent. Votre père, Henri Vincenot, rencontre un grand vulcanologue. Futur
oui.
grand vulcanologue. Il a joué au rugby avec
Arun Taziev, qui avait également un accent qui roulait les airs. D'ailleurs, quand papa et maman étaient à Paris, au début de notre séjour, comme ils roulaient les... Comme ils avaient l'accent bourguignon tous les deux, que maman avait des pommettes larges et puis que papa avait quand même un physique un petit peu, je dirais pas cosaque, mais d'abord il jouait le jeu, il avait une toque en fourrure, à l'époque ça ne se faisait encore pas, tout le monde pensait que c'était des gens d'Europe centrale. Et donc oui, il a joué au rugby avec Arun Taziev, avec mes frères, avec mon mari. Et la troisième mi-temps avait lieu chez Taziev, dans l'île Saint-Louis.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que votre père, Henri Vincenot, va déguster un ragoût de hérisson avec
Django Reinhardt.
Django Reinhardt.
Oui.
C'est extraordinaire.
Alors,
tout cela.
Mais il avait... vous savez, il y a des gens qui ne voient jamais rien, qui ne rencontrent jamais personne. Et lui, chaque fois qu'il rentrait, nous disait... Devinez qui j'ai rencontré. Et c'était toujours un truc extraordinaire. Alors, quand mes parents, quand papa était nommé à la gare de Lyon avant d'aller à la Vie du Rail, mes parents habitaient à Maison Alfort. Donc papa prenait le train tous les jours pour aller à la gare de Lyon et pour revenir le soir. Et cette cité HLM, d'ailleurs, SNCF, en petite brique rouge, elle existe toujours, était entourée de terrains vagues. Il n'y avait pas tous les immeubles qu'il y a maintenant. Et sur ce terrain vague, il y avait un campement de gitans et il y avait un guitariste que papa a reconnu plus tard pour être Django Reinhardt. Et papa dansait et chantait, parce qu'il adorait ça, taper des mains avec les gitans qui étaient là. Et la maman du camp préparait un ragoût de hérisson, et papa trouvait ça délicieux.
Alors, on est obligé d'aller un petit peu vite, parce que l'heure
passe,
tourne, mais
oui,
c'est
oui,
passionnant.
Oui.
Alors, il y a... votre père rencontrera aussi, sera abordé alors qu'il peint par
Louis-Ferdinand Céline,
l'auteur de
oui.
Voyage au bout de la nuit.
Oui, oui,
effectivement.
Oui.
Il y a aussi cette histoire
Gary
extraordinaire.
Cooper.
Alors ça, faut que vous la racontiez, Claudine.
Oui,
s'il vous plaît.
Parce que papa déposait des toiles dans une galerie avenue
des
Champs-Élysées.
Oui.
Et il y avait dans le galeriste avait mis en vitrine un tableau de papa. Qui était un tableau en plongée sur le canal Saint-Martin un jour d'hiver, alors tous les gris, un camailleux de gris, et puis il y avait un petit personnage au bord du canal, un petit personnage noir. Enfin, c'est un tableau lugubre et de grande solitude. Entre à ce moment-là un monsieur avec le chapeau que l'on connaît, avec la petite lavalière, et qui dit, avec un accent américain très prononcé, je veux acheter ce tableau. Ah bon, et pourquoi? Alors papa est émerveillé, parce qu'il nous emmenait voir les westerns avec maman. Parce que maman disait, c'est propre, il y a des grands espaces, il n'y a pas de coucherie. Et ce monsieur dit donc, je veux ce tableau. Ah bon, pourquoi? Parce que cet homme-là, tout seul, c'est moi. Et peu de temps après, en effet, papa a appris qu'il était décédé. Parce qu'il était gravement malade. Alors papa est rentré à la maison en nous disant « J'ai vendu un tableau à Gary Cooper ». Alors nous, on était fous de joie, le héros de nos westerns. Ça a été, et avec ça, maman nous a acheté 4 vestes bleues marines et 4 semblables pour les 4 enfants.
Alors, vous parlez des enfants. Il y a l'œuvre littéraire de votre père, et puis on va être obligé de mettre un terme à cet entretien, hélas. Il y a une autre œuvre à laquelle il est extrêmement attaché, je crois, c'est ce hameau abandonné de la,
oui.
de la pourrie, enfin
oui,
de la
pourrie.
Près à 10 km du village de Comarin.
Oui, tout à fait, sur lequel qu'il a découvert à 17 ans.
Il le raconte dans la Bibaud.
À la fin de la Bibaud, oui. Il l'a découvert, il avait 17 ans, et il a dit, voilà, c'est ma belle au bois dormant, c'est moi, je suis le prince charmant, et je vais la réveiller, je vais la ressusciter, et je veux vivre là un jour, et je veux y être enterré.
Donc c'est un village en ruine.
Oui.
Que votre père, avec vous,
oui,
l'été, les enfants,
oui, oui,
Vincenot et André,
et oui,
votre maman, heureusement que c'était pas
oui,
une
oui,
femme.
Oui. Ah non. Non, non, c'était pas une petite
parisienne.
C'était
une femme de terrain, quoi.
Ah oui, c'était une femme de terrain. Tout terrain. Oui, nous avons reconstruit, enfin, avec l'aide de certains artisans. Enfin, nous avons défriché, déblayé, on a passé 2 mois et demi sous la tente pour mettre en état, dégager la source. Et
mais
puis...
c'était parmi les plus beaux moments de votre jeunesse.
Ah oui, ah oui, vraiment. Et puis c'était un idéal que mes parents nous ont fait partager, un peu utopiste, parce qu'on ne sait pas trop ce que deviendra cette propriété, mais c'était vraiment pour nous des souvenirs merveilleux.
Alors qu'est-ce que la Peurie aujourd'hui? C'est le
alors,
lieu, bien sûr,
oui,
où reposent
oui,
vos parents,
oui,
votre
et
maman
on est en,
y a d'abord été
mes frères et moi, nous sommes en société, parce que nous n'avons pas voulu partager. Maintenant, le problème va se reposer parce que nous avons tous plusieurs enfants, donc je ne sais pas du tout ce qu'il en adviendra, mais enfin, après nous.
Oui, alors, après nous, effectivement, comme dit Claudine Vincenot, advienne ce que pourra. Fin de notre hommage aujourd'hui sur Radio à Claudine Vincenot qui nous a quittés le 17 mars dernier à l'âge de 85 ans. La fille d'Henri Vincenot dont il a été longuement question dans cet entretien que j'avais enregistré avec elle fin juillet 2011 lors de la fête du livre de Saulieu. Je vous recommande la lecture des ouvrages de Claudine Vincenot. Même si certains des ouvrages sont épuisés, je pense qu'on peut les acheter d'occasion sur des sites marchands via Internet ou alors aussi, n'oublions pas, les ressources documentaires de nos bibliothèques qui sont des mines, des trésors. Je vous recommande tout particulièrement Le Maître du Bonheur, dans lequel, c'est un récit, mais dans lequel Claudine Vincenot évoque son père dans différentes dimensions, personnelles, intimes, créatrices, artistiques. C'est vraiment un très beau texte, très riche et passionnant sur l'œuvre et l'homme Henri Vincenot. Je vous recommande aussi vraiment de feuilleter l'album Vincenot paru en 2012 aux éditions de l'Armançon avec des textes de Claudine Vincenot et surtout un très grand nombre de photographies qui révèlent la multiplicité des talents artistiques d'Henri Vincenot. Et relisez aussi certains des textes de Claudine, son recueil de nouvelles chez Anne Carrière, Petites histoires douces, amères, et aux éditions de l'Armançon, le roman Colombe et Brutus ou Cœur de voyou. Et puis vous pouvez aussi, pourquoi pas, sur Internet, retrouver des séquences au cours desquelles Claudine Vincenot présente des inédits de son père sur le plateau d'Apostrophe, l'émission qu'animait Bernard Pivot sur Antenne 2. Si vous avez manqué une partie de cet hommage, eh bien c'est très simple, hein, vous pouvez le retrouver sur le site d'archives de l'émission via internet sur le www.yannickpetit.fr. Je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine et je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Alors samedi prochain, c'est le week-end de Pâques, hein. D'ailleurs il y a le Salon des Vins, les Vinées Tonnerroises, aux Hospices de Tonnerre. Et autre information importante, le 30 mars prochain, dans notre beau département de l'Yonne, c'est la réouverture de la maison de Colette. Et puis à 11h, samedi prochain, un wagon livre au cours duquel je vous proposerai un entretien avec Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste à France Télévisions et qui a fait paraître il y a quelques mois un roman intitulé « L'ombre d'un traître » aux éditions de l'Observatoire. Voilà. Nous serons au Mont Valérien dans la commémoration de la résistance des fusillés et des déportés pendant l'occupation. Nous reviendrons avec Nathalie Saint-Cricq sur le choix des 15 cercueils qui se trouvent dans la crypte du Mont Valérien. Mais en 1960, il y a eu un mauvais choix de cercueil puisqu'il y avait un traître, un agent double qui travaillait à la fois pour la résistance mais qui a aussi livré des informations à l'Allemagne un résistant qui était particulièrement anticommuniste et qui était favorable à, disons, à la victoire de l'Allemagne. Tout cela, c'est de l'histoire avec aussi un très beau fond d'intrigue policière grâce au personnage que Nathalie Saint-Cricq a créé et qui s'appelle Désiré Février. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end à l'écoute des programmes de Radion ou alors plongez dans vos romans ou scènes, lectures distractives et didactique. Merci de votre écoute et de votre curiosité et merci aussi de vous être aujourd'hui associé à l'hommage que nous avons rendu à Claudine Fincenot. Au revoir et à samedi prochain.